de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yves Gourina. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Vous êtes organiste, mais aussi vous faites autre chose.
Je suis professeur des universités en physique des structures et directeur de recherche. Mais il se trouve, depuis ma plus tendre enfance, je suis attiré par l'orgue. Et au fil des années, je me suis aperçu que la physique et l'orgue, c'est la même chose.
Justement, aujourd'hui, nous allons traiter de l'harmonie et du contrepoint dans la littérature organistique. Qu'est-ce qu'est pour vous l'harmonie, puisque l'orgue joue un rôle essentiel dans ce phénomène, notamment la pédale qui soutient la mélodie, les contrepoints?
Alors, l'harmonie, effectivement, pour en donner une définition, c'est assez difficile, puisque c'est l'art d'agencer les voix ensemble, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Historiquement, c'est parti de la polyphonie et en effet du chœur mixte à quatre voix avec les deux voix aiguës, donc soprano alto, et les deux voix graves, ténor et basse. Et en effet, l'orgue rejoint par les deux mains et les deux pieds, j'allais dire, cette polyphonie à quatre voix. Alors, vous dites que le pédalier soutient effectivement tout cela, c'est vrai. Dans le rôle de fondement, si j'osais, je dirais même de sous-bassement, que la pédale a quand elle joue la basse. Ce qui est quand même son rôle traditionnel. Mais il faut savoir que, historiquement, ça n'est pas son seul rôle. L'intérêt de la pédale, c'est d'ajouter une voix supplémentaire par rapport aux mains, et donc de pouvoir faire 3, 4, 5, 6 voix, jusqu'à 8 voix. Prends le choral ad nos, par exemple, de Liszt. On se promène avec 8 voix, effectivement. Je rappelle quand même que les règles sont faites pour l'harmonie et pas l'harmonie pour les règles. Et pour cela, il serait peut-être intéressant qu'on revienne aux sources de l'harmonie et du contrepoint. C'est-à-dire qu'on regarde comment tout cela est né et comment tout cela s'agence. Le Homensch Bewein, qui est un choral orné, où là, on a vraiment, dans toute sa magnificence, dans la prière d'ailleurs, la combinaison, alors la basse, évidemment, qui soutient tout, à la base, ça c'est le fondement de tout. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que dans ses passions, Bach donnait la voix du Christ à la basse. Donc, la basse qui soutient tout à la pédale. La main gauche qui crée l'harmonie, effectivement. C'est-à-dire qui, par l'agglomération des voix, va donner la couleur. Et puis la main droite, qui est le cantus. J'oserais presque dire le bel canto, mais dans le sens du chant orné, qui va tisser son contrepoint par-dessus. Donc là, un exemple magnifique, équilibré, de combinaison, de sous-bassement, d'harmonie à la main gauche et de chant à la main droite.
Thank you.
Nous venons d'écouter le choral de O Mensch de Johann Sebastian Bach proposé par Yves Gourina. Nous allons traiter le thème de l'harmonie. Donc effectivement, nous venons de comprendre que la mélodie était ornée à la main droite, c'est-à-dire sur un clavier. La pédale joue le soubassement, la main gauche complète l'harmonie. Nous avons le contresens parfois de cela, puisque la pédale devient elle-même un cantus firmus.
Complètement. Il y a des raisons de facture d'orgue également, parce que les jeux de trompettes extrêmement puissants sont facilement entraînés par les pieds, peut-être plus facilement que par les mains, et donc donnent cette présence extraordinaire du ténor. D'ailleurs, la voix de ténor à l'opéra est très importante, hein, que la pédale de l'orgue français en particulier joue. Tout à fait. Et c'est la main gauche là qui prend la basse et la main droite qui tisse l'harmonie par-dessus.
Donc nous venons de comprendre que l'harmonie, les voix peuvent effectivement grâce à l'orgue se changer de voix. Mais il y a des compositeurs qui ont généré un traité d'harmonie pour éviter les faux bourdons, les quintes.
Oui. Alors c'est très intéressant. Je prends l'exemple du traité d'harmonie de Dupré qui est quelque chose d'extraordinaire sur lequel nous avons tous plus ou moins travaillé. Alors c'est fantastique parce que ça permet d'avoir des règles, ça permet d'avoir le code de la route. Néanmoins, il faut savoir que, d'ailleurs Dupré le disait lui-même, il y a des cas où il faut savoir déroger à ces règles dans le sens du texte. Alors je prends l'exemple de Mozart, hein, qui dans pas mal de ses compositions a fait du faux bourdon et des quintes parallèles. Et puis les compositeurs contemporains comme Jean Langlais, par exemple. Langlais est très très intéressant de ce point de vue-là. Il donne cet aspect claironnant et joyeux en dépassant les règles de l'harmonie, en les mettant au service de la musique. Le modèle du traité d'harmonie, c'est vraiment le traité de Dupré, qui est absolument remarquable. D'ailleurs, tellement remarquable qu'il écrit sur 4 clés différentes. Il y a la clé de fa à la basse et 3 clés d'ut sur les 3 autres voix. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez, je dirais pas théorique, mais d'assez scolaire, qui permet de faire ses études. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut apprendre aussi à manipuler l'ambiance, il faut apprendre à prendre sa guitare et à accompagner avec les accords directement.
Comment évoquer le faux bourdon ?
Et c'est très intéressant cette histoire du faux bourdon. Effectivement, quand la mélodie est née dans le cœur des hommes, alors on ne sait pas bien quand, il y a très 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 longtemps, à l'origine d'Homo sapiens sapiens, il y a certainement eu l'envie de chanter ensemble. Et la première idée qu'on entend d'ailleurs chez les moines tibétains, c'est de soutenir la mélodie par une note constante. Nous, on appelle ça d'ailleurs une pédale. Par exemple, la toccata en fa de Bach commence par un canon soutenu par une longue, longue, longue pédale. Alors, c'est...
Mais il y a le contrepoint dessus.
Il y a le contrepoint dessus, tout à fait. Mais il y a cette... Comme dans une cornemuse. Dans une cornemuse, il y a un bourdon. Dans une vielle à roue, également, il y a... En permanence, qui rassure, si vous voulez, qui donne un soubassement. Alors, il y a une première variété qu'on peut donner en rajoutant la quinte qu'on a également sur la cornemuse. Alors évidemment, quand la quinte dure 3 heures, ça finit par être un tout petit peu lancinant. Et il y a donc des musiciens qui ont eu l'idée de faire évoluer ce bourdon. Alors, c'est comme ça d'ailleurs que la pédale est née, effectivement. Sur les instruments italiens, par exemple, où il y a un tout petit pédalier, on a quelques notes où on peut donner quelques notes différentes sur la pédale. Exactement comme les timbales d'orchestre. Quand vous avez une timbale d'orchestre, vous avez en général 3 notes, la tonique, la sous-dominante, la dominante, et qui vous donne les basses essentielles pour soutenir. Ça, c'est la naissance, si vous voulez, de la pédale de basse. Et puis, on peut imaginer d'accompagner en parallèle. Alors, l'exemple qu'on peut donner, qui est tout à fait intéressant, je vais me risquer à chanter un peu, en espérant que ça ne provoque pas une averse.
Ceci dit, ça s'appelle une fondamentale.
Ça s'appelle
d'un accord.
Quand c'est,
qu'on a vu dans l'harmonie.
Quand elle ne bouge pas. Mais alors justement, je vais donner l'exemple de l'Alléluia que Mozart a écrit dans son Exultet, et qui est très connu, qui est « Alléluia, 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 Alléluia ». Et il vient immédiatement l'idée de faire un faux bourdon à la tierce en dessous. « Alléluia, 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 Alléluia ». Donc c'est la même mélodie, mais décalquée à la tierce, et vous pouvez vous amuser. Si vous faites les deux en même temps, vous allez voir que c'est absolument magnifique. Mais c'est du Mozart. Et donc, c'est véritablement des parallélismes qui évoluent. Et on peut écrire une troisième voix qui, elle, va être la basse avec la timbale, si vous voulez. Alléluia, alléluia. Donc, on va se retrouver avec la tonique, la dominante, d'abord la tonique, puis la sous-dominante, la dominante et la tonique. Bon. C'est-à-dire que par des quintes,
finalement. Il s'agit donc du premier degré de la gamme et du cinquième degré de la gamme.
De la gamme. Et du quatrième, parce que finalement, le quatrième, c'est le cinquième, mais l'octave vers le bas. Et d'ailleurs, au passage, si on part du do, qui est quand même la note centrale entre les deux portées, une quinte au-dessus, on arrive à la clé de sol, une quinte en dessous, on arrive à la clé de fa. Donc, do, fa, sol, finalement, on a la base de toute l'harmonie. De toute l'harmonie diatonique.
Comment relier l'harmonie à l'histoire de l'orgue ?
Alors ça, c'est une vieille histoire. C'est que quand l'orgue est né, donc au IIIe siècle avant notre ère, il a fasciné tout de suite par la capacité qu'il a à durer. L'intérêt, c'est que l'harmonie ne se termine pas. Et donc, on est capable de faire chanter une mélodie pendant une durée et de l'orner et de l'harmoniser. De l'envelopper, de l'emballer, de la cajoler. Il y a tout un côté, si vous voulez, d'emballement.
Et là, moi, je dirais de la moduler aussi.
De la moduler aussi. Alors absolument, quand on veut, et justement, et c'est l'intérêt de l'orgue, contrairement à la cornemuse, c'est que la cornemuse, eh ben, vous êtes bloqué par ce bourdon qui continue à jouer, et Bach ne s'en prive pas. Dans sa toccata en fa, il commence par une pédale, effectivement, en fa, et puis il déroule le solo de pédale que nous connaissons tous, et ensuite il reprend exactement la même en do, à la dominante, avec le même canon par-dessus.
Certains compositeurs ont fait évoluer l'harmonie, notamment Messiaen. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors lui, si vous voulez, il est allé chercher des nouveaux modes. Alors là, c'est carrément une nouvelle gamme. Pourquoi est-ce que Messiaen a fait ça ? Alors Messiaen a écouté d'abord les chants d'oiseaux. Les chants d'oiseaux sont basés sur les harmoniques naturelles. Et il a tiré de toutes ces auditions, il a tiré un certain nombre de modes, ce qu'il appelle de modes à transposition limitée. C'est-à-dire qu'on va choisir une gamme qui favorise certains accords par rapport à d'autres et qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous utilisons dans la gamme diatonique. Alors c'est très intéressant parce qu'il a renouvelé le langage musical. Il voulait également faire un traité du rythme. C'est très intéressant pour un organiste qui s'intéresse aux percussions, car Messiaen était quand même un musicien universel. Il était également pianiste, c'est-à-dire un instrument à percussion. Et il n'est peut-être pas allé au bout dans la démarche du rythme, mais par contre dans la démarche de l'harmonie, oui, il a publié dans toute son œuvre une nouvelle vision de ce que peuvent être les accords, et ça n'est plus la tonique, la sous-dominante, la dominante, c'est d'autres accords.
Donc l'harmonie peut être générée par un traité d'harmonie, mais aussi par une musique descriptive qui évoque d'autres choses.
Complètement.
Et on montre d'autres modes.
Complètement, et musique que je qualifierais même d'impressionniste. C'est-à-dire qu'en fait, Messiaen, avec d'autres hein, bien sûr, a inventé ce que nos impressionnistes en peinture, Manet, Monet, etc., ont inventé, c'est-à-dire l'art de combiner les couleurs d'une façon qui n'est pas uniquement autour des lignes, donc de la tonique, la sous-dominante, la dominante, mais d'autres choses.
Du coup, les couleurs sonores sont différentes et ressemblent un peu à un exotisme.
Mais totalement, totalement. D'ailleurs, Messiaen était très attiré par l'Orient. Hein. Il s'est intéressé, pour ses modes à transposition limitée, il s'est intéressé au mode hindou. Il s'est beaucoup intéressé au raga hindou.
Donc nous allons écouter...
Le banquet céleste.
De Messiaen.
De Messiaen, absolument.
À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine.
C'était De pierre et de notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.